Découvrez la chronique éco-citoyenne pour les ados par Nathalie Zapiro-Manoukian.
Nathalie, aujourd'hui, vous voulez nous parler des 10. Mais alors, il ne s'agit pas du tout de deux fois le club des 5. Les 10, pour vous, ce sont les dysfonctionnements. Expliquez-nous ce que vous entendez par là.
Alors, les 10, il y en a un qui est très connu comme trouble parmi les 10, c'est la dyslexie, dont on entend assez souvent parler, mais il y a aussi la dyscalculie, la dysorthographie, la dyspraxie. Donc, je vais quand même revenir sur qu'est-ce que c'est que ces 10. Déjà, il faut savoir que ça ne concerne que des enfants dont l'intelligence est normale. Donc, soyons clairs là-dessus, ce sont des troubles qui surviennent, des petits troubles sur une intelligence normale. C'est très important de le dire et de le répéter à l'enfant. Simplement, ces enfants vont avoir au niveau de leur cerveau des difficultés d'interprétation des informations envoyées par leurs cinq sens. Par exemple, chez le dyslexique, qui, vous savez, se traduit par des difficultés pour lire et pour écrire, eh bien, ces enfants, en fait, on a montré déjà à l'IRM, parce que ça, c'est très important à dire, donc l'IRM, qui est un examen neurologique assez performant, on a pu montrer que l'air visuel des mots chez ces enfants ne s'activait pas quand ils lisaient comme chez un autre enfant qui n'est pas dyslexique. Donc déjà, la dyslexie, c'est pas un trouble de la paresse, c'est pas un trouble de la motivation. Et si vous avez un enfant dyslexique, que vous essayez de changer de pédagogie ou que vous le forcez à travailler des heures et des heures en plus, ça ne changera rien. C'est pas la bonne méthode. Donc, il faut aussi que les profs comprennent que ces enfants ne font pas exprès d'avoir des troubles de la lecture, donc après de l'écriture, hein, puisque ça suit. La chose la plus importante aussi à dire, c'est que en CP ou en CE1, devant un enfant qui, de toute évidence, a plus de difficultés que les autres pour apprendre à lire, alors qu'il a l'air de faire ce qu'il faut pour, et quand on change de pédagogie et que ça ne donne aucun résultat, il faut contacter les parents, leur dire de voir le médecin, un professionnel de la santé pour faire un bilan. Donc, ça sera chez l'orthophoniste le plus souvent ou chez le psychologue qui a l'habitude, le neuropsychologue, et faire un bilan pour voir s'il n'y a pas une dyslexie derrière. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Ces enfants-là ont des difficultés à concevoir le son des mots. C'est-à-dire que vous voyez par exemple le mot professionnel, très rapidement, en quelques microsecondes, vous avez analysé le pro, le fess, le ionel, enfin toutes les lettres, tout est très clair. Et eux, ben non, il va falloir qu'ils décortiquent absolument tout. Le P plus le R plus le O, ça fait quoi? Ah oui, ça fait pro. Et comme ils s'en rappellent pas, c'est très très long. Voilà. Et ils vont mettre beaucoup plus de temps. Ce qui fait qu'en fait, que pour lire une phrase, un dyslexique va dépenser au niveau de son cerveau beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus d'énergie. Il va être épuisé et pour un résultat moins bon. Alors si en plus le professeur le dispute, que ses parents lui disent qu'il n'est pas motivé et qu'il fait exprès, vous imaginez au niveau psychologique comment c'est triste et comment c'est difficile.
En fait, c'est un fonctionnement différent, c'est pas du tout un retard ou une paresse.
C'est ni un retard ni une paresse, c'est des réseaux au niveau du cerveau qui sont pas tout à fait bien mis au point. Et puis, il y a ceux aussi qui ont des troubles oculomoteurs. Alors, ceux-là, c'est les plus faciles à récupérer. Parce que quand, en fait, ce sont vos deux yeux qui convergent pas bien, qui ont des petits troubles au niveau, vous voyez, de coordination de ce côté, il y a l'orthoptiste qui peut entrer en scène. L'orthoptiste, c'est une sorte de kiné des yeux. Et alors là, ça peut aller très, très vite. Donc, j'ai oublié aussi de vous dire que la dyslexie avait une composante génétique. Ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment, il faut bien comprendre que l'enfant n'y est pour rien. Et d'ailleurs, parmi les dyslexiques, ils se sont aperçus qu'il y avait aussi plus souvent que ce qu'on pourrait l'attendre des probabilités, hein, des statistiques, il y avait plus souvent une association entre enfants précoces, donc enfants surdoués, et dyslexie, qui sont deux manifestations à composantes génétiques. Et alors, ça va être pareil pour la dysorthographie ou la dyscalculie. C'est vraiment des enfants qui n'arrivent pas pour la dyscalculie à faire des calculs mentaux, etc. Mais ils pourraient apprendre leur table tous les jours, ça ne change rien. Mais alors, on va dire, ah bah, il ne sait pas ses tables. Mais non, il ne sait pas parce qu'il ne peut pas les retenir. Et c'est pareil pour la dysorthographie. Alors, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre, quand il y a une difficulté comme ça, il faut absolument que les professionnels de la santé se mettent en rapport avec les professeurs, expliquent qu'est-ce que l'enfant peut, qu'est-ce que l'enfant ne peut pas. Parce que vous comprenez bien que si un enfant a des troubles de l'orthographe, il les a en français, mais il les a aussi en maths, en histoire, en géo, il les a partout. Donc, quand vous êtes sanctionné parce que vous faites 20 fautes d'orthographe sur un devoir de géographie, alors que vous saviez bien votre leçon, c'est quand même triste.
c'était la chronique ado par Nathalie Zapiro-Manoukian. Pour la réécouter, rendez-vous sur le www.radioéthique.com.